Les pâtés en croûte ou, dans la grande tradition, les rillettes d'oie, le fromage de tête, les terrines.
Eh, hey, compliment, c'est du joli travail. Un cochon qui n'a pas eu à se plaindre.
Vous vous y connaissez ?
J'aime beaucoup la charcuterie.
Je suis en train de préparer un saucisson à l'ail. Donc j'hache le maigre à la grille 10 et ensuite j'incorporerai du gras froid haché à la grille 8.
Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette.
Bon, on parlera de ça après, hein.
Un pâté de canard comme je n'en avais jamais mangé. Maman, on a repris 3 fois.
C'est délicieux.
Remarquable.
Ça vous plaît? Oui, c'est moi qui l'ai fait.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Attention, on envoie du pâté aujourd'hui, mais également des terrines, rillettes, saucisses et pâté croûte. Tiens, tiens, terrines, rillettes, saucisses et pâté croûte. C'est précisément le titre d'un nouveau livre qui creuse le sillon de la charcuterie maison, signé par 2 artisans d'exception, Gilles et Nicolas Véraud, aux éditions du Chêne. Les Véraud, père et fils, sont justement en notre compagnie en ce dimanche. Bonjour les amis.
Bonjour François Régis.
Gilles le papa.
Bonjour François Régis.
Nicolas Véraud le fiston. Un coucou aussi à Catherine, qui est la pièce maîtresse du dispositif Véraud, très importante dans cette aventure. Une saga familiale qui a commencé rue Wilson à Saint-Étienne dans la Loire et qui se poursuivit grâce à vous, Gilles et Catherine Véraud, à Paris mais aussi à Londres et à New York. On va décrypter avec vous cette tendance folle pour la charcuterie à la maison, qui illustre votre livre. Mais on va aussi s'interroger sur le présent et l'avenir du métier de charcutier. Il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'attractivité de ce métier, la présence des femmes dans ce métier également. On va, bien entendu aussi, poser la question controversée des nitrites, ces conservateurs présents dans la charcuterie, soupçonnés, comme on le sait, d'être cancérigènes. Le week-end dernier se déroulait le Grand Prix de France 2020 de la charcuterie artisanale dans le 10e arrondissement de Paris, avec des candidats professionnels de toute la France qui s'affrontaient dans plusieurs épreuves. Notre reporter Stéphane Combe a suivi l'un d'entre eux dans les sueurs de ce concours. Nous découvrirons son reportage dans le courant de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs aujourd'hui, c'est une joie d'accueillir notre libraire gourmande Déborah Dupont et notre avocat gourmet Éric Morin. Bonjour les amis.
Bonjour.
Déborah.
Moi, j'ai décidé d'être diplomate aujourd'hui et je ne garantis rien sur les cochonneries qu'on fera en fin d'émission.
Pas très diplomate avec notre profil, nos régimes en tout cas. Il faut refermer cette boîte très très vite. Hein. Sinon, elle risque de ne pas arriver jusqu'à vos chroniques. C'est chouquette fourrée, oui, crème diplomate, vous allez comprendre. Éric ?
Eh bien, un temps de cochon pour les porcs. On va parler de bien-être animal et parfois même de maltraitance animale.
On retrouvera la plaidoirie de Maître Morin dans le courant de cette émission. Vous pratiquez la charcuterie à la maison, vous avez des questions ou des révélations à nous faire, envoyez-nous un mail à onvadéguster@radiofrance.com ou cliquez sur le bouton intervenir depuis l'appli mobile de France Inter. Toutes les recettes de nos invités, Véro, père et fils, nos infos pratiques, le podcast de nos émissions et de nos chroniques, c'est sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster, avec François-Régis Gaudry.
On commence cette émission avec une petite surprise, ou un piège. Une surprise que je vous ai rapportée. Le seul indice que je peux vous donner, c'est qu'il y a un morceau de fromage dans vos petites assiettes en carton. Est-ce que vous auriez une idée de la provenance? Allez, les Véraud. Il n'y a pas que la charcuterie dans la vie.
Moi, je dirais que je pourrais le situer un petit pas très loin de chez moi, c'est-à-dire dans la Loire, la Haute-Loire. Ça me fait penser à une fourme, en fait. Hein.
On commence à chauffer. C'est une fourme.
C'est une fourme.
Bonne réponse.
Donc, après, la provenance exacte, il y en a tellement, en fait, du côté du puits,
Montbrison.
Montbrison, bien sûr, mais ça, c'est plutôt une fourme de Haute-Loire, je dirais. Donc, côté du puits, après, je ne saurais peut-être pas découvrir laquelle, en tout cas.
Non, non, mais il est...
C'est mon fromage préféré, en fait. Bien choisi.
Il est bien en place, le Gilles Véraud. J'ai pas tout à fait la provenance précise de cette fourme. C'est une fourme, ce qui est déjà pas mal. Géographiquement, vous n'avez pas perdu la boussole. C'est bien, Gilles Véraud. Quelque chose à ajouter autre cobaye consentant?
Vassivière, autrement.
Non, c'est une texture de Cantal.
Ouais.
Un petit peu, mais il y a du persillé au milieu, donc...
Je suis obligé de donner la bonne réponse à notre ami Gilles Véraud.
Ah bah écoute...
Redite.
La forme de Vassivière.
Bravo, forme de Vassivière. Bon bah voilà, on allait... C'était un jeune fromager qui allait précisément nous donner la réponse. Ouais, la réponse, on est allé la chercher. À Boulogne-Billancourt, département des Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris, 101 rue du Point du Jour, c'est la fromagerie Escudier, ouverte par Augustin Denoux, que nous avions reçu à ce micro dans une émission consacrée à la reconversion professionnelle. Il m'a fait goûter un jour cette pâte persillée, peut-on dire, qui ressemble effectivement à une fourme. Eh bien, la réponse, il nous la précise au micro dont va déguster.
Alors, ce fromage, c'est un fromage assez particulier, c'est une fourme. On est sur une fourme faite à 15 km d'Ambert, la fourme de Valcivière. Et là, cette fourme-là, eh bien, ces fermiers, ils sont les seuls à la fabriquer. Ils se sont inspirés des traditions locales pour fabriquer une fourme qui se garde dans le temps, qui s'affine petit à petit, tout en cave naturelle, avec que des vaches abondance, des levains naturels. Et la vraie particularité, la fourme d'Ambert s'est affinée à peu près 28 jours, et là, on est quasiment 6 fois plus. Donc, on est à 6 mois d'affinage. Et ça permet quoi? Ça permet d'avoir une texture fondante, délicate, beurrée, et puis un croûtage, moi, que je trouve absolument extraordinaire. Ça supporte des vins rouges légers, donc type Gamay, Pinot Noir, mais vraiment sur un beau vin rouge de la région, là, vous avez quelque chose de... Enfin, c'est somptueux. Donc la fourme de Valcivière, le Gaec des Hautes-Chaumes, un fromage que nous, on propose à la fromagerie Scudier depuis très longtemps et qui a beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que les clients, lorsqu'ils goûtent ça, ils se disent « Mais bon sang, j'ai jamais goûté une fourme avec une telle texture ».
La fourme de Valcivière, produite à 72 km à l'est de Saint-Étienne. On est entre Ambert et Montbrison, qui ont aussi donné leur nom à de célèbres fourmes. Et cette très belle histoire, l'histoire de ces artisans d'exception, est racontée dans ce nouveau livre que le fromager Augustin Denoux a signé aux éditions Ulmer, avec les splendides photos d'Erwan Balança, qui s'intitule « Fromage sauvage, Déborah Dupont ».
Oui, un très beau livre, effectivement, qui nous fait voyager et qui nous rappelle que le fromage est un produit vivant, produit par des hommes et des femmes qui respectent leurs animaux. Et c'est tout à fait raccord avec l'émission d'aujourd'hui, je trouve.
Parfait, un plaidoyer pour défendre ces irréductibles paysans qui ont fait le choix, comme vous le dites, du fromage vivant, évidemment au lait cru, dans le respect de leurs animaux et de leur terroir. Et ce fut une grande joie pour moi de préfacer ce livre, Fromage sauvage, aux éditions Ulmer. L'émission est réalisée par Laurent Thomas, avec Michel Bézikian à la technique, Margot Page s'occupe de la préparation, et Djoubaka, monsieur programmation musicale, a choisi pour nous Arlo Parks avec le titre Hurt. On va déguster charcutes maison sur France Inter.
Are sticking to me and I can't quite see my walls. Started dreaming of a house with red carnations by the windows, where he didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt.
Nous avons à cœur de transmettre notre savoir-faire et de mettre le style de la maison Véro à la portée d'une cuisine de tous les jours. Nous avons créé ces recettes en nous imposant trois contraintes. 1. Des ingrédients faciles à trouver. 2. L'utilisation exclusive du matériel de cuisine basique. Et 3. Peu de termes techniques. Voilà ce que vous promettez tous les deux, Véro père et fils, dans votre livre de charcuterie à la maison qui va faire du bruit. C'est un manuel de référence, sauf si Déborah Dupont, notre libraire gourmande, me contredit.
Ah non, clairement pour faire à la maison, ça va être le livre qui va s'imposer. On avait des livres pour professionnels jusqu'à présent, ça commençait à se démocratiser un peu, mais là, clairement, enfin moi j'ai vu plusieurs recettes où je sais qu'on est vraiment capable de les faire à la maison, on n'a pas besoin d'un équipement non plus de dingue. Ça a clairement été adapté pour le particulier à la maison.
Voilà, ils tiennent le pari de la simplicité à la maison. Alors on va voir si ce ne sont que des promesses, avec une première recette que vous nous faites goûter. Vous nous avez servi, Nicolas Véro,
une terrine de poulet. Alors pour la terrine de poulet, c'est facile. Cochon, poulet. Alors souvent, quand on dit terrine de poulet, on rajoute aussi du cochon. C'est pour une raison très simple, c'est qu'on a dans le cochon un bon équilibre entre le maigre et le gras. Ça apporte le moelleux de la charcuterie et de la terrine. Donc là, il faut du poulet qu'on va hacher un peu grossièrement, ensuite du cochon qu'on va hacher.
Donc avec un couteau, on est d'accord, avec pas besoin couteau de grille numéro 10, 12.
Exactement. Avec un couteau, et ce couteau, juste on va faire des morceaux fins pour le cochon, des morceaux un peu plus larges, enfin un peu plus gros pour le poulet. Mm-hmm. On va mélanger le tout avec de la crème et des œufs, sel, poivre, et voilà. En fait, c'est aussi simple qu'un gâteau au chocolat.
Sauf qu'il faut quand même, Gilles Véro, un plat adéquat. En l'occurrence, qu'est-ce que vous recommandez comme plat, comme terrine, puisque le nom terrine au départ, c'est le récipient, le contenant avant d'être le contenu. Mais ce peut être un plat en fonte ou bien en terre cuite.
Ça peut être aussi un moule céphale, c'est-à-dire dans lequel on va faire des gâteaux, des moules à cake en fait. Donc ça, c'est tout à fait réalisable, notamment pour les pâtes croûtes aussi. Mais la terrine peut se faire dans ce type de moule.
Bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Morin?
Si.
Il n'est pas le dernier pour le cochon.
C'est soyeux à souhait. Et puis je feuilletais le livre. C'est une recette, une page. Donc si on est dans la simplicité, a priori, on y est vraiment à fond.
Oh, c'est bon. La texture.
Oui, et puis il y a ce qu'il faut en gélification, mais c'est juste parfait. C'est moelleux, c'est pas sec du tout, comme on pourrait le craindre avec du poulet. Franchement, c'est une petite merveille.
Et gélification, même si, attention, ce qui tient en fait la terrine au-delà de la cuisson, c'est pas du tout un additif ou une gélatine.
C'est pas, non, y a, en fait, on n'a pas besoin de gélatine, en fait, on n'a pas du tout besoin de gélatine pour faire une terrine. C'est le mélange, la liaison qui va s'effectuer avec donc ce mélange à la main qu'on conseille dans le livre. Et qui va créer cette texture en fait plutôt souple et plutôt bien liée en fait. Mais la gelée n'est pas du tout obligatoire pour une terrine en tout cas.
Et parfaite assaisonnement, hein. C'est subtil et délicat, tout à fait intéressant. Cher Nicolas Véro, donc on parle du fils, 27 ans je crois.
Exactement.
Qui travaille avec papa, qu'on connaît depuis très longtemps dans le milieu. Gilles, votre première émission On va déguster remonte à il y a quelques années quand même.
Oui, il y a quelques années, c'était, je crois, pour un premier livre de recettes.
Ouais. Absolument. La différence, Nicolas Véro, entre une terrine, un pâté, un pressé, chacune de ces occurrences font l'objet d'un chapitre.
D'un chapitre dans le livre, exactement. Alors, la différence entre pâté et terrine, elle est assez floue. Mais nous, à la Maison Véro, ce qu'on a fait, c'est qu'on se dit, de façon très simple, un pâté, quand on parle de pâté, c'est qu'on a de la viande qui est hachée finement, et de façon uniforme, donc un hachage fin. Mmh. Une terrine, on va avoir un mélange, en règle générale, dans le livre, ce qu'on fait, c'est 50%. 50% de viande hachée finement, donc souvent c'est la viande de cochon, et 50% d'une autre viande ou d'une autre partie du cochon qui va être hachée, là, un peu plus grossièrement, et on va, par exemple, pouvoir faire une terrine avec du cochon, du poulet, des abricots secs. C'est, mmh. Voilà, on peut rajouter des morceaux, mais un peu plus grossiers. Ensuite, un pressé, ça va être des morceaux, enfin des pièces qui vont être cuites en amont et ensuite ajoutées par strate, le plus souvent par strate, dans une terrine. Et là, par contre, la gelée, le gélifiant va avoir vraiment un intérêt à venir coller le tout.
Dans le pressé, il y a effectivement cette gélatine de cochon ou un gélifiant qui permet effectivement de tenir l'ensemble avec cette architecture stratifiée. Merci beaucoup, c'était très clair. Avez-vous entendu parler du Grand Prix de France de la charcuterie artisanale?
Oui, bien sûr, c'était la semaine dernière, le week-end dernier.
Absolument, ça se tenait du 3 au 5 octobre.
Oui,
tout à fait, au CEPROC, le Centre d'Excellence des Professions Culinaires. Cette édition 2020 réunissait quand même 20 candidats, charcutiers professionnels, venus de toute la France, entre 24 et 49 ans. Que des hommes. On s'interrogera peut-être sur la féminisation du métier dans un instant. Peut-être que Déborah a un avis sur la question. C'est Joël Mauvignet, le président de la Confédération des charcutiers traiteurs, qui présidait ce concours. Vous le connaissez, Gilles Véran ?
Bien sûr, c'est notre président national, tout à fait.
Il défend bien votre profession ?
C'est un acteur politique qui fait beaucoup de choses, oui, tout à fait. Et donc, c'est important d'avoir un défenseur, effectivement, qui se bat auprès des instances gouvernementales. C'est super important.
Notamment au travers de ce concours de la charcuterie artisanale. Eh bien, Joël Mauvignet accueillait notre reporter Stéphane Combe dans le 19e arrondissement de Paris, juste à côté de la Cité de la Musique. Allez, on plonge dans l'effervescence de ce concours.
Alors voilà, on est dans le laboratoire championnat de France de la charcuterie artisanale. Donc là devant, ce candidat est en train de faire son saucisson à l'ail. Vous voyez comment il est magnifique, avec bien entendu, vous voyez, du gras, du maigre proportionné, avec surtout le maigre qui domine. Donc voilà, il est en train d'étuver, et vous avez vu qu'il est plus rose, mais il est rose naturellement. Hein, il n'y a pas de sel nitrité là-dedans. En France, on est en deçà de la moyenne européenne autorisée. Si vous voulez, uniquement les produits saumurés, avec un taux qu'on a baissé, qui est bien souvent un mélange de sel de Bayonne, de sel de l'île de Ré, avec un petit peu de nitrite, mais ça n'a jamais tué personne. On réduit complètement le sel nitrité incorporé dans les terrines et tout, où on n'en a pas besoin. Quand je vois certains qui font un foie gras avec du sel nitrité, ça ne sert à rien. Ensuite, vous avez un candidat qui est en train, à mon avis, de monter des aspics de foie gras. Là, ce monsieur-là, il est en train de nous faire
la sauce porto
qui va accompagner le jambon en croûte. C'est bon ?
Alors là, moi, je suis parti sur un jambon à l'os que j'ai séparé en deux ensuite. Et après, je suis parti sur une pâte feuilletée. Et puis, le but de travailler avec un demi-jambon à l'os, j'ai voulu garder la forme d'un jambon, d'un cochon, avec la petite queue de cochon en bout, en pâte feuilletée. Voilà.
Il faut que le visuel corresponde, bien entendu, au dégustatif. On ne fait jamais la même chose tous les jours. Déjà, le métier charcutier proprement dit, mais derrière, il faut être cuisinier, il faut être pâtissier, parce qu'on a des rayons de pâtisserie salée, de pâtisserie sucrée, donc il faut maîtriser tout ça. Aujourd'hui, les artisans charcutiers traiteurs, c'est 6500 entreprises et 18500 salariés.
Lorsqu'on se promène en ville, on a l'impression qu'il y a moins de charcutiers traiteurs qu'auparavant. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une vue de l'esprit ?
Non, vous avez entièrement raison. C'est une réalité, malheureusement. Ceux qui sont partis à la retraite ont préféré vendre à tout un tas d'autres commerces, les banques, les assurances, etc., parce qu'il y avait un coût financier sur l'immobilier énorme. Hormis l'Alsace et la Lorraine, qui ont vraiment l'entité de boucher, charcutier, traiteur. Dans le reste de l'Hexagone, malheureusement, il y a moins de charcutiers, et que les bouchers qui se sont substitués et qui sont bouchers charcutiers, 80% sont des revendeurs de charcuterie industrielle. Et progressivement, le consommateur prend acte que chez les commerçants, chez les artisans, il y a une différence entre la qualité et l'industriel.
Constat plutôt alarmant sur la profession de charcutier artisanal par Joël Mauvignet, le président de la Confédération des charcutiers traiteurs. Que pensez-vous de son analyse ?
Moi, je ne serais pas du tout alarmant, en fait, parce que je suis toujours plein d'espoir. Ça fait 20 ans qu'avec Catherine, on a ouvert notre première boutique, plus de 20 ans maintenant. Et en fait, je regarde d'abord le présent et le futur, et je vois que des bonnes choses qui se présente à ce métier. Donc moi, je ne parle pas de chiffres, évidemment, parce que les chiffres ne sont pas bons pour le nombre de professionnels qui sont aujourd'hui en activité. Mais je vois tout, je vais plutôt citer des exemples de jeunes en France qui viennent à ce métier, parfois un peu plus tard, sur le tard, effectivement. Donc, effectivement, il n'y a pas des centaines de milliers de professionnels qui sont aujourd'hui en activité de charcutier, mais il y a énormément de charcuteries présentes de plus en plus, dans le monde entier aussi, donc ça on peut en parler, dans le monde entier. Et parce que dans des charcuteries aussi.
La charcuterie de quartier est remplacée, comme le disait Joël Mauvignier, par une agence bancaire dans une petite ville de région. C'est un phénomène tout de même assez courant. Est-ce que le métier de charcutier, dans le succès des métiers de bouche de manière générale, beaucoup de succès du métier de boulanger, on le constate tous les jours, du métier de
fromager.
De fromager, on avait l'exemple d'Augustin Denoux avec sa fromagerie à succès à Boulogne, fromagerie Escudier. Est-ce que le métier de charcutier n'est pas un peu le parent pauvre de ces métiers de bouche?
Peut-être, Nicolas Béraud. Était à un moment, mais aujourd'hui, il y a un vrai retournement de situation qui s'opère.
D'accord.
Et quelque part, c'est assez drôle parce qu'on remarque, nous, à la Maison Véro, qui ne s'opère pas nécessairement avec des personnes qui choisissent ce métier à 14, 15 ans. Alors, il y en a énormément, bien entendu, mais en fait, il y a énormément de reconversions professionnelles. Mmh. Et ça, c'est super intéressant de voir qu'on a des cuisiniers qui s'intéressent au métier de charcutier, mais également des gens qui n'ont aucun background gastronomique au départ et qui toquent à notre porte, et on n'est pas les seuls, bien entendu, et qui toquent à la porte de charcuterie pour dire « voilà, moi j'ai envie d'apprendre ce métier, je veux découvrir ce savoir-faire ». Et ça, je pense qu'après, ça va découler d'un plus grand nombre d'apprentis un peu plus jeunes qui souhaiteront découvrir ce métier. Donc, en CAP à 16 ans, en règle.
Très bien.
Générale.
Et beaucoup de reconversions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de reconversions dans la charcuterie. Les femmes dans le métier, on les sent un petit peu oubliées. Est-ce que c'est le même syndrome que la boulangerie? Vous savez, on disait souvent que la boulangère, c'était la femme du boulanger. Est-ce que la charcutière, c'est la femme du charcutier? Alors, je regarde évidemment Catherine, votre épouse, Gilles Véro. Elle n'est pas que la femme du charcutier, puisqu'on sait à quel point son rôle est stratégique dans le succès de la saga Véro. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des femmes qui embrassent ce métier?
Oui, absolument. Et nous, on encourage ça, d'abord parce qu'on aime ça. On aime cette touche féminine au sein de notre atelier.
Concrètement, il y en a?
Concrètement, oui, bien sûr. Donc, en général, c'est 5 ou 6 dans l'atelier chaque année, soit en formation, soit... Oui, toujours, ouais. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Et bien sûr que c'est assez récent, ça aussi. Mais aujourd'hui, les jeunes femmes n'hésitent pas à venir toquer aux portes des charcuteries parce qu'elles ont compris que la charcuterie, c'est de la cuisine, comme je le répète souvent. Et en fait, la cuisine attire beaucoup les femmes, la pâtisserie attire beaucoup les femmes. Aujourd'hui, la charcuterie attire les femmes d'un point de vue, je dirais, intéressées pour déguster, bien sûr, mais pour fabriquer, pour vendre, pour avoir une réelle vie au sein de la charcuterie.
Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que toutes les femmes qui travaillent au sein de l'atelier sont toutes des reconversions. Toutes des reconversions. Donc moi, je trouve ça super intéressant de dire quoi. Il y a des tabous qui sont brisés petit à petit. C'est génial.
En matière de livres, en fait, il suffit de regarder au catalogue de l'Épure notamment. On a eu le livre de Anne Etor.
Ah bah une sacrée embosseuse de saucisses.
Voilà, et de pâté aussi. Mmh. Elle a fait aussi. Vous avez aussi Maïalène Zubilaga.
Bien sûr.
Vous avez Emeline Aubry aussi, qui d'ailleurs est une cuisinière reconvertie et qui, elle, le dit ouvertement, elle a très envie de pouvoir participer, alors pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, au championnat du monde de pâté croûte.
Ouais,
enfin, on sent qu'il y a quand même une féminisation et que les femmes tapent du poing sur la table pour se faire entendre et dire non, c'est pas un métier d'homme, nous aussi, on a notre part à prendre et on veut participer à ces concours.
Eh bien, parfait. Et ça avance. On est obligé d'enchaîner un peu les sujets parce que on sait à quel point la charcuterie soulève des questions à la maison. On va pas faire évidemment l'émission sur les nitrites. Ce n'est pas possible, on l'a déjà faite ultérieurement, mais c'est une question brûlante. On entendait Joël Mauvignier qui dit que ça n'a jamais tué personne, ça reste à prouver. On connaît désormais scientifiquement les nitrites ou sels nitrités ont un effet cancérigène avéré. On sait même qu'il joue un rôle dans l'apparition de certains cancers digestifs. C'est le député Richard Ramos qui préside d'ailleurs une mission d'information à l'Assemblée sur le rôle des sels nitrités dans l'apparition de ces cancers. Quelle est votre position sur les nitrites qui enquiquinent quand même, qui polluent un peu l'image de la charcuterie haut de gamme, reconnaissons-le?
Elle est très claire. En fait, depuis 5 ans, au sein de la Maison Véro, on a décidé de supprimer de commencer un travail sur la suppression totale des nitrites.
Carrément.
Carrément.
Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Alors, nous avons complètement supprimé le sel nitrité de 95% de nos fabrications, et notamment, je dirais... de tout ce qui est, c'est très facile sur le pâté croûte, sur le terrine, sur le pâté, c'est très simple. Sur les saucisses, c'est très facile. c'est du selfin à la place du
poivre. Rappelez-nous, Gilles, en un mot, le rôle des nitrites, c'est un conservateur, on est d'accord,
un antioxydant. Un peu plus puissant en fait que le sel nature. Et dans les années 50 à peu près, donc l'industrie américaine avait décidé que le cochon par exemple était compliqué à conserver parce que c'était des mauvaises conditions d'élevage, d'abattage et le froid n'était pas aussi bon, il y avait les bateaux et tout. Donc ils ont amené ce sel nitrité et ils l'ont mondialisé et les Français ont suivi. Et donc dans le code des usages, qui n'est pas du tout notre Bible, qui est la Bible des industriels, on retrouvait le sel nitrité comme un élément, je dirais. Moi, j'ai appris à travailler avec le sel nitrité. Donc en 1980, le sel nitrité était juste normal.
Dans des doses considérables, qui ont quand même largement baissé de nos jours, même si le sel nitrité est toujours autorisé. Par exemple, le député Richard Ramos, qui ferraille souvent dur, avec Thierry Coste, ce lobbyiste qui défend les intérêts de la charcuterie industrielle, il proposait notamment de taxer les produits de charcuterie contenant ces additifs. Je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, on est dans quel genre de dose aujourd'hui, Maître Morin ?
Alors, c'est une réglementation de l'Union européenne qui dit 150 mg par kilo. On parle d'un seuil d'incorporation, ce n'est pas un seuil résiduel. Il n'y a qu'une dose indicative pour le bio. Ce que je trouve intéressant dans ce que dit Gilles Véraud, c'est qu'en fait, c'est possible. Voilà. Et donc, c'est ça aussi le message qu'il faut faire passer.
Après, il faut aussi reconnaître que certains clients s'offusquent de voir un jambon qui a tendance à griser un peu plus vite parce qu'il n'a pas de sel nitrité. Il faut aussi évidemment que les clients s'y habituent. Est-ce qu'il existe des solutions alternatives justement pour prolonger la durée de vie des produits charcutiers en se passant de nitrite, Nicolas Véraud ?
Nous, on a vraiment pris ce parti pris de dire voilà, les sels nitrités, on n'en veut pas. C'est le parti pris de la maison Véraud. Les gens, les clients sont informés, ils le savent et de toute façon, ils l'entendent au quotidien parce que ça fait souvent quand même la une des médias. Pour répondre à votre question, il n'y a pas de solution magique qui puisse le remplacer. C'est pour ça que nous, on a des produits qui se conservent beaucoup moins longtemps qu'auparavant, mais c'est un choix qu'on a fait. Mmh. Et dans le livre, enfin, c'est quand même la preuve que on peut faire de la très bonne charcuterie sans sel nitrité. On a donc toutes les recettes sont bien sûr au sel fin, donc au sel que vous avez chez vous, le sel classique. Donc au sel fin, et il n'y a pas du tout de sel nitrité, et vous sortez de la charcuterie canon en respectant les recettes.
Très bien, et de la charcuterie maison et on va dire low-tech avec très peu d'ustensiles ou de grilles, de hachoirs, etc. Je vous propose de retourner au Grand Prix de France de la charcuterie artisanale. Stéphane Combe, notre reporter, a tendu le micro à l'un des candidats de ce concours, Jérémy Chameau, 24 ans, de la maison Chameau, à Angers, dans le Maine-et-Loire.
Là, je suis en train de réaliser mes jambons sous croûte. En forme de pâté en croûte, en fait, j'ai fait un feuilletage. À l'intérieur, je vais reconstituer mon jambon avec du jambon cuit basse température au bouillon, de la couenne, du gras, jambon, couenne, gras, etc., etc. Puis trancher à l'assiette avec une sauce partout.
Oui, alors vous avez deux moules de pâté en croûte. Oui. Chaque moule fait environ, on va dire, une grosse vingtaine de centimètres.
Donc, je me suis dit que c'était bien d'apporter une petite touche de modernité pour le Grand Prix de France de la charcuterie artisanale. Donc c'est pas un pâté en croûte puisqu'il n'y a aucune farce à l'intérieur. C'est uniquement composé du jambon, de sa couenne et de son gras. Ensuite, je repose une pâte feuilletée sur le dessus. J'ai préparé ma dorure au jaune d'œuf. Je vais repasser ça au four à 185 degrés. Pour avoir une jolie coloration et pour que le gras, la couenne puisse se réchauffer, puisse se coller ensemble. J'ai trouvé ce métier passionnant au fur et à mesure parce que déjà mon père est charcutier traiteur et m'a transmis en fait son amour du métier tout simplement. On me dit ouais t'es boucher, patati patata, sauf que non, je suis pas boucher justement. Le métier de charcutier traiteur se rapproche beaucoup plus du métier de cuisinier que de boucher. Il y a énormément de gens qui reviennent heureusement au petit commerce.
Et votre cas, vous-même, vous avez un petit commerce en ville,
bien sûr,
à Angers, je crois.
Un petit commerce en plein centre-ville, juste à côté de la gare. Et on a vraiment toutes sortes de clientèles, et c'est ça qui est beau, quoi. On n'a pas forcément des personnes âgées, comme pourraient penser certains, avec qui viennent chercher leur petite barquette de carottes râpées et puis un morceau de jambon blanc, quoi. Non, on a des jeunes qui viennent se faire des bons plateaux de charcuterie parce qu'ils savent que chez un charcutier qui fait tout maison, c'est de la qualité. Alors ils font pas tous les jours, évidemment. Faire du bon, faire du maison, travailler avec des producteurs locaux, éviter d'aller acheter des porcs en Roumanie ou des volailles élevées en batterie qui ne voient jamais la lumière. Et ça permettrait aussi de sauver tous les petits producteurs de volailles, de fruits et légumes. Il faut arrêter de manger des tomates en hiver.
Oui, je suis là, chef.
Vous, en tant que meilleur ouvrier de France et examinateur, membre du jury, qu'est-ce que vous regardez particulièrement là sur tous ces candidats?
Au niveau du travail, on regarde déjà l'organisation, la propreté du poste de travail. Là, il prépare ses aspis en fait, ses aspis de foie gras. C'est un produit classique, ancien. Et là, on leur donne une certaine liberté, c'est-à-dire c'est de le réinterpréter. Il fait une sorte de finger. D'autres ont fait des cônes. Là, il y a des impressions avec des moulures. Donc en fait, demain, on va avoir un trompe-l'œil en forme de bûche de bois. Et, on parle d'un produit classique, donc je dirais la tradition, amené à la modernité. C'est toute cette richesse de notre métier. Parce que c'est pas par hasard. On vient pas à la charcuterie comme ça sur un coup de tête. Et moi, je suis tombé dedans tout petit, alors. Moi, mes parents étaient agriculteurs et on faisait la cuisine de cochon. Alors, je suis tombé dans le pâté, hein, tac, dans la marmite tout petit.
Celui qu'on vient d'entendre, c'est David Brett, examinateur, meilleur ouvrier de France charcutier 2004, installé en Charente-Maritime. Vous êtes d'accord, les Véros, je connais d'avance la réponse, mais il serait bien d'argumenter un tout petit peu avec ce constat qu'il n'y a pas de bonne charcuterie sans bon cochon.
C'est ce qu'on me dit toujours pour le
Gilles
jambon.
Véro.
Le jambon, en fait, le bon jambon, c'est le bon cochon. Donc en fait, il y a 25 ans, il y a un éleveur qui est venu me voir dans le Perche. On a débuté un travail avec lui et à cette époque, donc dans les débuts des années 2000, tout le monde me disait mais c'est de la folie. Catherine me disait mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup trop cher. Et en fait, on était convaincus que c'était le bon choix parce que on voulait faire des bons produits, mais il fallait la meilleure des matières premières. Et c'était pas forcément quelque chose de courant dans notre métier et même dans la gastronomie encore à la fin des années 90.
C'est vrai. Le donc, premier partenaire de la maison Véro, c'est donc Laurent.
Laurent Guglielmi dans le Perche.
Ouais.
Et aujourd'hui, on a rencontré aussi d'autres personnes. Patrick Escudé dans les Pyrénées, Arnaud Tauzin qui nous fait des volailles magnifiques, et pour moi ce sont des gens qui sont au niveau de la fin, qui font partie de notre maison en fait, hein. ils sont dans nos terrines et on crée des recettes pour mettre en valeur leur terroir, et c'est quelque chose de capital. Sans eux on n'est rien.
Très bien, l'homme n'est pas toujours copain avec le cochon, malheureusement. On écoute le plaidoyer de notre avocat gourmet Éric Morin.
Sur France Inter, on va déguster.
Si tout est bon dans le cochon, tout n'est pas naturellement bon chez l'homme, n'en déplaise à Rousseau. Il ne s'agit pas de balancer des porcs, quoique, mais bien de souligner combien l'homme s'est mal comporté pendant ces dernières décennies avec ses animaux, roses, gris ou noirs, à la queue en tire-bouchon. En tout cas principalement en Occident, tandis que dans nombre de pays, notamment d'Asie, c'est un animal sacré comme il l'était déjà en Grèce antique. Sous prétexte qu'il est supposé sale et que même notre langage l'utilise comme une injure, il y aurait eu comme une sorte d'autorisation tacite de se mettre au plus bas niveau du respect de la condition animale.
Est-ce que vous avez quelques chiffres pour illustrer votre propos?
Les chiffres, en fait, ils sont déments. 90% des cochons vivent dans des bâtiments fermés. Moins de 5% vivent sur une litière de paille et moins de 1% peuvent gambader en plein air. Dans les élevages industriels, les truies sont maintenues dans des cages, individuelles et dans des milieux appauvris, leur empêchant de faire un nid et restreignant leurs mouvements malgré une directive de 2013. Les porcs à l'engraissement sont élevés sur caillebotis intégrales, sans apport de litière, leur interdisant ainsi de fouiller le sol. On leur coupe la queue, ou plutôt les deux, si vous voyez ce que je veux dire, et on leur meule les dents. Dans les élevages en plein air et élevages bio, c'est une toute autre ambiance. Les truies comme les porcs sont élevés en extérieur et certains passent même leur vie entière au pré. Les porcelets restent avec leur mère jusqu'à 8 semaines, la coupe de la queue est proscrite et beaucoup ont cessé d'être castrés.
Alors, est-ce que cette situation de l'élevage va évoluer, va changer?
Alors, avec l'entrée en vigueur au 1er janvier 2022, c'est un peu plus d'un an, du nouveau règlement européen pour l'agriculture biologique, certaines pratiques vont être interdites, même si d'autres vont subsister. 30% des aliments devront provenir d'exploitations bio, contre 20% actuellement. Un porcelet sera défini comme un animal de moins de 35 kg, contre 30 aujourd'hui. Les bâtiments devront comporter une ouverture sur trois côtés, avec une aire extérieure. Mais le lisier conventionnel pourra toujours être épandu sur des terres bio. Vous vous rendez compte, il a fallu attendre 2015 pour que soit inscrit dans notre code civil que, je cite, « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité ». C'est dire combien nous avions perdu ce lien nous unissant à l'animal. C'est au consommateur de faire les bons choix, en gardant à l'esprit que dans la production intensive, les veaux, par exemple, sont élevés en batterie et interdits de pâturage. 80% des poulets ne verront jamais la lumière du jour. qu'une chèvre sur deux est élevée en intérieur, que 50% de la production française de poules vivent en cage. Ça s'améliore, c'était 2/3 il y a encore 2 ans, avec parfois, comme l'a pointé le magazine, 60 millions de consommateurs, à peine l'équivalent d'une feuille à 4 par animal dans les élevages de lapins.
Est-ce qu'il y a eu des initiatives récentes pour contrecarrer cette réalité ?
Alors, pas plus tard que cette semaine, une proposition de loi portée par Cédric Villani, destinée à lutter contre la souffrance des animaux sauvages comme domestiques, elle a en partie été rejetée en commission, notamment sur l'obligation d'aménager un accès en plein air pour toutes les bêtes de tous les élevages. Mais tous les professionnels vous le diront, et nos invités aujourd'hui, un cochon bien élevé, j'adore cette expression, est un cochon qui prend son temps, qui pousse lentement, entre 12 à 30 mois, entre prairies et forêts. Sa nourriture est à base d'herbes, de glands, de châtaignes, de feuilles et d'un complément de céréales. C'est ainsi qu'il fera du bon gras, celui avec une teneur élevée en acide oléique, comme dans l'huile d'olive. Alors, il nous faut redevenir copains comme cochons, et c'est possible, je pense, au port en liberté des vignerons Stéphane Meyer dans le Jura, ceux d'Oronce de Bel-Air en Bourgogne, au port noir de Bigorre, qui bénéficie d'une appellation d'origine, au jambon exceptionnel de Patrick Duller à Saint-Géry, ou ceux de Nicolas Braic dans les terres libres du Larzac, et aussi, sans oublier, le jambon Prince de Paris qui est fabriqué rue de Charonne, en plein cœur de la capitale, par Yves Le Guel. Toutes les informations sont sur le site de l'émission. Alors, peut-être que les bourgeois, plus ça devient gros, plus ça devient bête, mais pour le cochon, plus ça devient gros, plus ça devient bon, et sans nul doute, heureux.
Qu'est-ce que vous faites ?
Eh ben, je vous ai apporté deux vins, deux gamets.
C'est les bons de mariage du cochon et du vin.
Voilà. Alors, les anciens et les modernes, Jean-Louis Dutrèves en Fleury, que l'on ne présente plus, qui est un vigneron emblématique, aussi discret que talentueux. On est dans le Beaujolais. C'est des vins extrêmement fins, levure indigène, longue maturation, élevage sous bois, avec la charcuterie, il n'y a pas mieux. Et puis, en l'honneur de nos invités, des néo-vignerons.
Oui.
Qui s'appellent Régis et Aude Rennes Anouille. On est à Ambière, on est vraiment sur vos terres, hein, les ouais. Gilles et Nicolas Véraud. C'est leur première vendange, 2019, domaine de la Bénisson-Dieu.
Qu'est-ce que c'est bon ? Vous les connaissez ?
Non, pas du tout.
Alors c'est la Loire, mais c'est la Loire volcanique. Hein. Oui. C'est une belle impression que m'ont donné. Là, c'est du Gamay rosé. Ils ont sorti leur blanc et les rouges sont encore en cave. Ça vaut 14 euros. Et franchement, on est dans ce Gamay rosé et ce Gamay en fleurie. C'est ce qui peut aller de mieux avec la charcuterie. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'est une infusion de raisin.
Oui, c'est une très belle découverte. Ouais, ouais.
Avec ces notes acidulées, c'est vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que vous nous faites goûter dans un instant pour s'accorder avec ces gamets d'Éric Morin ?
On peut peut-être basculer sur le pâté croûte directement.
Carrément.
Pâté croûte, canard et olive de Kalamata.
Est-ce que vous dites à la maison pâté croûte ou pâté en croûte ? J'ai très envie de relancer la polémique. Et en tout cas, on va goûter votre pâté en pâté croûte. Non, pardon, pâté en bon, pâté en croûte. Notre candidat Jérémy Chameau, vous savez, au concours national de la charcuterie artisanale, n'a malheureusement pas été dans le palmarès malgré son travail de grande qualité. Je voudrais quand même adresser évidemment nos félicitations au nom de toute l'émission à celui qui remporte le Grand Prix de France 2020 de la charcuterie artisanale. Il a 28 ans, il est charcutier à la maison Maurice, à Moutier, sur Bohême, département de la Charente, et il s'appelle...
Willy Mandel. stress qui me possède et qui m'empêche de voir clair dans ce monde où tout m'oppresse. Je me consume, j'allume ma propre image. Mon levier, c'est quand il faut que je me dépêche. Et si je sors, c'est pour tout effacer de ma mémoire. Je me voulais le temps, mais éviter les histoires. Et éviter les pas, mais il est déjà trop tard. La vie me crame, mais dans les nuits, je trouve mon heure de gloire. Pendant la nuit, les parasites s'effacent. Les masques tombent pour célébrer le néant et la folie. Dans cette énigme qu'on appelle la vie, j'ai envie de courir.
Paradigme pour danser dans le salon en écartant les fauteuils du groupe de nouvelle French pop La Femme. Ça sent le pâté sur le plateau dont on va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Qui annonce la couleur de ce pâté en croûte, Nicolas?
Alors là, on est sur un pâté en croûte de canard et d'olive. Recette qu'il y a dans le livre, bien entendu.
On peut même faire du pâté en croûte à la maison sans trop se prendre la tête.
Tout à fait. Mais en fait, le conseil qu'on donne, nous, c'est d'abord faites un pâté, d'abord faites une terrine. Et le pâté en croûte, c'est vraiment l'étape suivante. Parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose. On va juste rajouter un petit travail pâtissier dessus.
T'en as fait à la maison, ça?
Ben, bien sûr.
Du travail de pro.
Oui, cuisé. Il a été cuit hier après-midi, donc.
Splendide.
C'est très important ce que vient de dire Nicolas. En fait, le pâté croûte,
laissez-moi,
c'est d'abord une terrine, c'est d'abord un pâté. Donc, si vous voulez ne pas être impressionné par la recette, maîtrisez d'abord cette recette en tant que terrine. Vous pouvez très bien acheter la pâte et après vous la mettez dans la pâte. Donc, c'est vraiment l'étape, je dirais, c'est le niveau 1 du pâté croûte.
Précisons que la recette de ce pâté en croûte exceptionnel, parmi quelques autres, figure sur franceinter.fr à la page On va déguster, canard olive.
Canard et olive,
oui. Waouh, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Là où je vous en veux un peu, c'est que je vais m'amuser à relire le titre de votre livre. Terrine, rillettes, saucisses et pâté croûte. Est-ce que l'on pourrait pas dénoncer un peu ce snobisme dont je suis moi-même victime et qui consiste à ostraciser les gens qui préfèrent dire, en français correct, pâté en croûte? Moi, je suis moi-même confrérie, membre d'une confrérie qui s'appelle la confrérie du pâté croûte. Vous savez qu'il y a un championnat du monde qui se tient tous les ans à Tain-l'Hermitage.
Bien sûr, j'y vais chaque année.
Pâté croûte. Mais alors, pâté croûte ou pâté en croûte, visiblement, vous avez choisi votre camp.
Bah, en tant que Stéphanois d'origine.
La oui, mais ça sort d'où? Je suis lyonnais, moi. J'ai toujours dit pâté en croûte.
Ouais, mais Lyon a toujours beaucoup copié sur Saint-Étienne. Donc, pâté croûte, c'est vraiment quelque chose de très, de tout à fait normal. Et comme c'est la région de ce produit, oui, pâté croûte, c'est bien.
Alors, j'ai un petit mot à adresser au tenant du pâté croûte. Parce que j'ai fait ma petite enquête. J'ai même demandé un avis à deux agrégés de lettres, Stéphane Solier, à Paris, Pablo Diaz, jeune normalien, lyonnais et professeur de français à Lyon, qui assistait à notre émission sur la cuisine vapeur la semaine dernière. L'expression pâté en croûte serait apparue au 19e siècle pour le différencier du pâté en pot et du pâté en terrine. Ensuite, on a commencé à dire pâté croûte, alors non pas à Lyon, mais en Champagne, visiblement. Les Lyonnais et les Stéphanois s'en sont inspirés. L'explication la plus évidente, c'est que pâté croûte est un terme du jargon des professionnels de la charcuterie. En fait, l'expression a été tout simplement raccourcie. Le mot croûte devient un peu un adjectif, un peu comme les pâtissiers diraient mousse chocolat ou crème vanille, et non mousse au chocolat et crème à la vanille. Sauf que moi, j'ai décidé de parler français. Hein, voilà, donc moi je dis pâté en croûte. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a un allié en l'espèce, c'est l'écrivain Sylvain Tesson, qui a cette très jolie phrase. Dans le pâté en croûte, le dindon de la farce, c'est le cochon. Donc pâté croûte, on change pas d'avis?
Pâté croûte, ouais, toujours.
Bon, il en reste très bon. Vraiment très bon. On en vient au débat de la rillette? Parce que là, il y a aussi un autre débat. Rillette de Tours ou rillette du Mans. Juste avant de trancher et de demander son avis à Nicolas Véro, eh bien, je vous propose une petite lecture. Rillette et Rillon, c'est le péché mignon de Félix de Vandenesse, le héros du Lys dans la vallée, le roman de Balzac paru en 1836. Félix de Vandenesse raconte le casse-croûte qu'il déguste avec ses camarades de pension à Tours. Et je peux vous dire que ça rillette grave.
Les célèbres rillettes et rillons de Tours formaient l'élément principal du repas que nous faisions au milieu de la journée, entre le déjeuner du matin et le dîner de la maison, dont l'heure coïncidait avec notre rentrée. Cette préparation, si prisée par quelques gourmands, paraît rarement à Tours, sur les tables aristocratiques. Si j'en entendis parler avant d'être mise en pension, je n'avais jamais eu le bonheur de voir étendre pour moi cette brune confiture sur une tartine de pain. Mais elle n'aurait pas été de mode à la pension, mon envie n'en eût pas été moins vive, car elle était devenue comme une idée fixe, semblable au désir qu'inspirait à l'une des plus élégantes duchesses de Paris les ragoûts cuisinés par les portières, et qu'en sa qualité de femme, elle satisfit. Les enfants devinent la convoitise dans les regards, aussi bien que vous y lisez l'amour. Je devins alors un excellent sujet de moquerie. Mes camarades, qui presque tous appartenaient à la petite bourgeoisie, venaient me présenter leurs excellentes rillettes, en me demandant si je savais comment elles se faisaient, où elles se vendaient, pourquoi je n'en avais pas. Ils se pourléchaient en vantant les rillons, ces résidus de porc sautés dans sa graisse et qui ressemblent à des truffes cuites. Ils douanaient mon panier, n'y trouvaient que des fromages d'olivet ou des fruits secs, et m'assassinaient d'un « Tu n'as donc pas de quoi ?»
Félix de Vandenesse, fantasmant sur les rillettes de Tours et surtout celles de ses copains de pension, avec d'ailleurs une ressemblance troublante entre ce héros littéraire et son créateur Balzac qui fut tourangeau et qui vécut lui aussi en pension. Merci beaucoup à Vincent Josse, dont vous avez reconnu certainement la voix, qui croque souvent des textes gourmands pour nous. Vincent, que l'on retrouve dans son grand atelier à 15h avec Leïla Slimani. Nicolas Véro, rillettes de Tours ou rillettes du Mans, avez-vous choisi votre camp ?
Choisir son camp, c'est toujours un peu difficile, mais le fait est que n'étant ni Manceau ni Tourangeau, ça aide, parce que j'ai remarqué qu'aucun Manceau ne préférera la rillette de Tours.
Expliquez-nous la différence.
En fait, on part à peu près sur les mêmes ingrédients, même s'il y en a une qui est protégée par une IGP, c'est la rillette de Tours. Mm-hmm. Donc on va utiliser du cochon des alentours. Et la rillette du Mans, elle, n'est pas protégée, par contre. Donc ça, déjà, c'est un point important. On en a une qui est cuite à couvert, la rillette du Mans, et une qui est cuite à découvert.
Et ça change la texture, visiblement.
En fait, ça change la texture, ça va changer... En fait, la rillette du Mans va être assez uniforme, ouais. Alors que les rillettes de Tours, elles, vont être un peu plus texturées et un peu plus... De couleur un peu plus prononcée. On en a une qui va être un peu plus blanche, ça va être la rillette du Mans, et les rillettes du Tour, elles vont être presque brunes.
C'est ça, d'où cette expression de confiture brune. C'est ça, absolument. Et visiblement, celles de Tours ont précédé celles du Mans, en tout cas. C'est-à-dire que celles du Mans auraient été popularisées au 19e siècle avec l'arrivée du chemin de fer et l'essor du sandwich, alors que celles de Tours remontent à Rabelais.
Mais nous, on veut pas. On a déjà la rivalité lyonnaise et stéphanoise, on ne veut pas se lancer dans ce genre de rivalité-là. Pour la paix des ménages. Les deux sont très bonnes. Et nous-mêmes, on alterne entre les deux. Les deux sont excellentes. Ce qui compte, c'est que vous vous fassiez plaisir, que ce soit à Tours ou au Mans.
Et vous nous avez préparé, pour éviter de choisir votre camp justement, des rillettes de lapin, Gilles Véro ?
Alors une rillette de lapin, alors là on est plutôt sur une recette estivale, c'est bien parce qu'on est en automne, il fait pas très beau. Donc pour se rappeler un petit peu les bons souvenirs du soleil de l'été, mm-hmm. on a créé depuis quelques années maintenant une gamme qui est complètement différente. Donc en fait les viandes sont cuites dans un bouillon de légumes au départ, et donc après ça devient un bouillon de viande, et c'est pas forcément du cochon. Donc en fait on adore faire ça, on fait des rillettes de poulet, on fait des rillettes de lapin, on fait des rillettes de bœuf, et j'en oublie, d'agneau aussi bien sûr.
Absolument.
Donc en fait là cette rillette c'est de la cuisse de lapin, mm-hmm. cuit dans un bon bouillon de légumes pendant environ une heure et demie. Et ensuite on a défibré, en fait
il y a une texture vraiment effilochée,
donc c'est très très facile à faire, mm-hmm. et en fait on a ajouté donc la moutarde à l'ancienne, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive.
Ah, le pot est en train de circuler autour du plateau. Chacun s'est couvert, évidemment, on fait très attention. Les mesures sanitaires sont strictes, on a tous nos masques sur
les données. C'est encore beaucoup plus simple, je pense, à faire qu'une rillette du Mans, qu'une rillette... Et c'est vraiment... c'est tartinable, en fait. C'est vraiment très... il nous manque le pain, là, par contre. On a été
mauvais. Alors, léger,
on n'a pas pris le pain.
Alors, Eric, moi...
léger.
Moi.
D'accord.
Voilà. Laissez-moi là. C'est parfait.
C'est parfait. Rillette de lapin en direct sur le plateau dont on va déguster. C'est une réussite, facile à faire. La recette toujours dans ce livre aux éditions Duchesne, Gilles et Nicolas Véro, à la page 114, mais également sur le site internet de notre émission. On passe au sucré avec Déborah Dupont.
France Inter. On va déguster.
Déborah Dupont fait de la concurrence en termes de gourmandise aujourd'hui, je peux vous le dire. Moi, je vais attaquer ça direct.
Je décline toute responsabilité pour les tâches qui vont
Surgir,
exactement. Oui, on l'a dit plusieurs fois en fait dans cette émission, voilà. Les charcutiers ont effectivement aussi une grande connaissance des bases pâtissières. Et notamment de la pâte à choux, parce que c'est vrai que les charcutiers traiteurs peuvent... Oh, Eric, c'est cochon ça.
Oh la vache, il a carrément fait une déco mouchetée dans le studio 521 de la Maison de la Radio. Bravo avec la crème diplomate.
Donc la pâte à choux qui va être utilisée notamment par les charcutiers traiteurs pour les gougères. Mais là, c'est vrai que j'ai choisi une recette purement sucrée, tirée du dernier livre de Stéphane Glacier. Donc Stéphane Glacier est un meilleur ouvrier de France en pâtisserie, qui a une école et une pâtisserie sur Colomb, dans le 92 à côté de Paris, et qui vient de sortir un livre, Pâte à choux, mais best-seller. Donc, et qui propose une recette de chouchouquette. Alors le chouchouquette, c'est quoi ?
J'adore.
C'est une base de pâte à choux, donc de chouquette, donc on ne peut plus classique. Hein. On va faire chauffer de l'eau avec du lait, du sel, du sucre, du beurre. Ensuite, on rajoute la farine en une fois, on fait un petit peu dessécher sur le feu. Ensuite, vous mettez ça dans le bol d'un robot, vous rajoutez des œufs. Vous faites, la pâte à choux, en fait, c'est l'œuf qui va permettre le gonflement ensuite.
Oui.
Donc, vous faites tourner votre robot. Ensuite, vous allez pocher vos choux, vous allez faire cuire. Et c'est là que c'est important, une pâte à choux se fait cuire longtemps. C'est-à-dire, ne vous étonnez pas, vous faites cuire facilement vos choux 40-45 minutes pour obtenir une couleur bien brune. La pâte à choux pas cuite, un goût d'œuf, c'est pas bon.
C'est tout moumou sur le palais.
Et en plus, quand on doit ensuite rajouter une crème à l'intérieur d'un éclair, d'un chou, d'une religieuse ou quoi que ce soit, ça va redétremper.
Il y avait de la crème.
Et alors la crème de cette chouquette, c'est une crème diplomate. Donc la crème diplomate, c'est une pâtissière allégée avec une chantilly.
À ne pas confondre avec la crème chez Boost, qui est une crème pâtissière allégée avec du blanc d'œuf.
Tout à fait.
Ouais. De la meringue italienne.
Et la pâtissière, oui. Pareil, mais la pâtissière, ce sont des œufs sur lesquels on rajoute du lait dans lequel on a fait infuser de la vanille avec du sucre, et ensuite on fait recuire avec un peu de poudre à crème et un peu de beurre. Enfin voilà, c'est vraiment les bases de la pâtisserie. Et ça, c'est pareil, c'est un peu comme la charcuterie maison. C'est-à-dire, on peut faire cette très bonne pâtisserie boulangère. Ce sont vraiment les bases. En fait, on est sur une chantilly, une pâtissière, une pâte à choux. Les recettes sont mises sur le site de France Inter. J'ai divisé les proportions par deux parce que là on est pour un kilo de... Forcément on est sur des proportions un peu professionnelles. Mais là j'ai fait 24 choux quand même avec ça.
Déborah fait ça avec une décontraction et une facilité, c'est impressionnant. Nicolas Véraud, j'ai vu que vous avez englouti aussi votre chouquette.
Moi elle est partie, la chouquette elle est plus là.
Non, mais c'est incroyable. La texture de la pâte à choux.
On a tout terminé, c'était super bon.
Franchement impressionnant. Vous nous rappelez les références de ce livre ?
Pâte à choux, mes best-sellers, donc édité par le pâtissier Stéphane Glacier, qui s'auto-édite en fait pour toute une collection de livres plus gourmands les uns que les autres.
Bravo, franchement, sacrée réussite. J'ai envie de me lancer le défi aussi d'une chouquette pâte à choux, mais je pense pas que j'aurai votre taux de réussite immédiatement. Allez, une dernière petite recette avant de se quitter, on arrive déjà au terme de cette émission. Peut-être une petite boulette, preuve qu'il y a vraiment des objets alimentaires, charcutiers, très différents dans votre livre. Depuis le pâté croûte jusqu'aux rillettes, en passant par cette boulette saucisse, c'est ça ?
En fait, l'idée, ouais, c'est ça. En fait, l'idée des boulettes, c'était parce qu'on voulait apporter aussi des recettes sans boyaux. Donc, comme on veut tout simplifier dans ce livre, on a quand même fait des saucisses traditionnelles avec boyaux, mais on s'est dit peut-être que voilà, la même recette peut être bien sûr utilisée. Ce sont des boulettes, tout simplement. Donc celles-ci sont des boulettes de cochon avec des herbes, hyper simples, du persil, de l'estragon. De la poitrine de cochon, donc il n'y a pas plus facile, du sel, du poivre, et ça se prépare très facilement, ça se façonne, ça se cuit au four et c'est vraiment le type de recette le plus simple du livre.
Belle performance, belle performance. Et moi j'ai ces boulettes façon merguez, page 168. Très astucieux, ça, pour éviter justement d'embosser le boyau. Tout ça est un peu compliqué avec de l'agneau et puis cette petite note de cumin et de paprika. Terrine, rillettes, saucisses et pâté croûte de Gilles et Nicolas Véraud aux éditions du Chêne. C'est vraiment le livre de la rentrée pour attaquer la charcuterie à la maison. Je vous garantis un vif succès. Vous serez tous les deux d'ailleurs en dédicace le samedi 17 octobre de 15h à 18h à la librairie de Paris à Saint-Etienne. J'y ai pas mal d'amis, moi, à Saint-Etienne. La semaine prochaine, la châtaigne, le fruit roi des forêts, au menu dont on va déguster. On ira faire un tour dans les vergers bio de l'Ardèche. Arnaud Daguin et Jérôme Gagnès seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.